Virginie Langeroc.
La situation s'apaise dans le Lotchental en Valais. Sous très haute surveillance, la rivière Lonza continue de s'écouler vers l'aval. Les millions de tonnes de gravats qui sont tombés depuis le glacier mercredi ont enseveli le village de Blatten et ont obstrué la rivière Lonza. Elle s'écoule donc finalement et remplit progressivement le barrage de Ferdon en contrebas qui avait été vidé vendredi. À ce stade, la probabilité qu'une coulée de boue et de roches, lave torrentielle, ne se déverse jusqu'en plaine a fortement diminué. Les autorités restent tout de même très vigilantes. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, sera ce soir à Willem, village situé en contrebas de Blatten, pour y rencontrer et soutenir la population. Le conseiller fédéral s'était déjà rendu à Ferden mercredi, quelques heures après l'effondrement du glacier. Un point de la situation devrait d'ailleurs débuter en ce moment même dans le village de Ferden. La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Soumy. Au total, 213 localités de la région ont reçu un ordre d'évacuation. Plus tôt cette semaine, Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou massait plus de 50 000 soldats près de la région de Soumy en vue d'une possible offensive. L'armée ukrainienne, moins nombreuse et moins bien armée, craint un nouvel assaut d'ampleur qui mettrait à mal ses ressources. Un responsable israélien a déclaré que son pays ne coopérera pas à une visite en Cisjordanie de ministres arabes des affaires étrangères. Le chef de la diplomatie saoudienne se rendra demain à Ramallah. Selon la chaîne de télévision américaine CNN, des ministres des Émirats arabes unis, d'Égypte, de Jordanie, du Qatar et de Turquie participeraient également à cette visite. Israël contrôle les frontières et l'espace aérien de ce territoire palestinien occupé, ce qui signifie que son approbation est nécessaire pour que les diplomates étrangers puissent y entrer. En France, le mémorial de la Shoah, deux synagogues et un restaurant situés dans le centre de Paris ont été aspergés de peinture verte la nuit dernière. Aucun message ni revendication n'ont été découverts à ce stade. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a condamné ces actes. En football, le FC Zurich nomme le néerlandais Michel van der Gaag, 53 ans, comme nouvel entraîneur. Il succède à Ricardo Moniz, lui aussi néerlandais, qui avait été démis de ses fonctions à l'issue d'une saison jugée décevante. Le FC Zurich a terminé le championnat de Super League en tant que premier du groupe de relégation à la 7e place. La séparation avait été communiquée en début de semaine par la direction du club. À suivre ce soir, le Paris Saint-Germain qui affronte l'Inter de Milan. Ce sera la finale de la Ligue des Champions. Ça se passe à Munich, en Allemagne. Et c'est à suivre dès 21h sur RTS 1 et sur RTS 2. Du soleil, des températures très chaudes aujourd'hui qui frôlent les 30 degrés. C'est le menu de tout ce week-end. Demain également, les températures seront très élevées en seconde partie de journée. Aujourd'hui et demain, quelques averses ou orages restent possibles avec de fortes rafales de vent à proximité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
La belle échappée.
Güzel kaçış.
La belle échappée.
Çudes mutlu kurtulmanı.
La belle échappée.
A bonita escapada.
La belle échappée.
La belle échappée. Christophe Canu.
Voyons sur les vélos.
On va te mettre dans ton siège, Juju. C'est OK?
Un, c'est bon.
Deux, ouais. Trois.
Laisse tomber, il y a plein de trucs qui vont pas.
T'es pas centré, on dirait.
Un, deux, trois. Oh.
C'est mieux, là?
On est là pour faire les 40 cols. Donc, c'est magnifique comme aventure. Et moi, du coup, ça va me faire grandir encore en endurance. parce que j'ai pas l'habitude d'en finir 9 jours comme ça, mais le corps, ça va, il accepte.
Attention. Allez, on va y aller.
Eh ben oui, cette fois c'est parti, comme chaque matin depuis 5 jours, pour cette équipe de cyclistes qui s'est lancée un sacré défi. Emmener Julien, tétraplégique, à vélo, au sommet de chacun des 40 cols que compte l'Ain, ce département frontalier du canton de Genève, en 9 jours. Soit en tout 800 km et 17 000 mètres de dénivelé positif. Il faut dire que Julien, Juju, comme on l'appelle dans le peloton, n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà, entre autres, participé à un triathlon, un Ironman, et détient le record du monde de vitesse à ski en duo avec un pisteur secouriste, un peu plus de 155 km/h. Mais cette fois, Julien a mis la barre encore plus haut. Il a décidé de se lancer dans une épreuve itinérante qui demande une endurance et une volonté hors du commun. Pour quel résultat? C'est ce que l'on entendra dans le long métrage du jour. Mais avant ça, on aura droit à un court métrage, une autre histoire. Une histoire d'une reporter, Muriel Mera, qui se demande ce qui a bien pu pousser un jour un être humain à taper sur le tronc d'un arbre pour voir quel son il produisait. Et on entendra que des siècles plus tard, du côté de la vallée de Joux, l'épicéa est devenue l'espèce reine en matière de bois de résonance. Pas étonnant dès lors que les meilleurs luthiers se l'arrachent. Mais c'était sans compter sur la prolifération d'un concurrent de taille, le bostriche ou scolite, un insecte glouton qui adore lui aussi les conifères et les dévore sans aucune retenue.
La belle échappée.
La belle échappée.
Des cyclistes de l'Ain qui enchaînent les étapes avec un vélo biplace pour sublimer le handicap et défier le destin, des chercheurs d'harmonie qui ne veulent pas pour un sou que les épicéa ne deviennent silencieux dans le risou, on est comme ça à la belle échappée. On rapproche les arbres et les bipèdes, avec ou sans vélocipède, sans jamais laisser personne, en tout cas, on l'espère, de marbre. Nathalie Schauenberg à la sélection des chansons, Antonin Barre à la régie, Christophe Canet au micro, bonjour.
Je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle diame sans paix avec elle-même, avec elle-même. Je préfère que ça parte aux enfants du désert, aux enfants du désert.
Ok, ok. La vie n'est qu'une course et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi, qu'est-ce t'as à perdre? Rien. Alors tu cours après le flou, tu coules sous les coups, tu l'ouvres, tu cours, tu souffres et puis tu prouves. Bah ouais mec, faut être honnête, mes troubles m'ont rendu poète. Au point qu'on met à ma dispo de quoi me toucher au mouette. Hélicoptère, taxi et jet, je suis monté sans mes tickets. Du terre-terre, t'accèdes au ciel, mais tout d'un coup tu fais pitié. Quand t'as de l'oseille, ouais, trop peuvent crève, trop veulent test. Mec, ton père vient te check, ton père ennemi devient ton ex, ouais. Petite princesse n'ai fait que fuir pour mieux reluire. Première au business au pire, tant que j'avais des sièges en cuir. Dans cette course au billet rose, j'ai vu mourir mes héros. Dans les coulisses, ça sent la coke et chez les stars, c'est l'héros. Moi comme une tache, j'ai couru après le commerce et les dollars. Au point d'avoir au poignet la même Rolex que Nicolas. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume, j'ai couru après le fric. C'est ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert. Car je n'emporterai rien sous terre. Alors j'ai défoncé des portes, collectionné les cartes à code. Black ou gold, après le iPhone, il me faut le gold et le iPod. Et puis la Xbox connectée à la Wi-Fi. Soit Sims, autre fille, on se connecte en Wi-Fi. Oui, je suis in, on dit que je suis branché. Un peu comme vous tous, non je veux pas vous déranger. Je passerai plus tard en Bluetooth, à l'aise dans mes Air Force. Je rêve à 100 Air Force et puis j'écris des rap parcours sur le tarmac, l'aéroport. J'ai à l'index la même bague que Carla, mais elle ne me sert à rien sous les étoiles de Tala. Désert de sable, autre désert de désespoir. Elle a des airs de victoire. Ma jeunesse, mais pas le choix des armes. Vu que l'État nous prive de tout, elle trime et tous, poussée par le crime, elle trouve refuge dans le deal ou au trou. Triste pays qui compte sur les voix de Le Pen pour qu'accède au sommet des gros capitalistes de merde. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume, j'ai couru après le fric. C'est ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert. essor. Je voulais que ma voix résonne dans tous les stores. Et puis si Dieu teste les hommes, je veux être digne d'aimer. Et à tous ceux qui triment, sachez que je veux être digne de vous aider. Parce qu'aujourd'hui j'ai tout connu, l'opulence et la thune, la déprime, les écus, les ambulances et la rue. Je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi l'État est coupable, qui débloque des milliards mais jamais pour le contribuable. Non, moi la boulette, je suis patronne et millionnaire. C'était soit l'humanitaire, soit tenter d'être billionnaire. J'ai fait mon choix et je t'emmerde. Désormais qui m'aime me suivent, désormais qui m'aime me traînent beaucoup plus haut que je ne vise. J'ai besoin d'aide dans ma révolte, besoin de vivre dans ma récolte, besoin des cris de mon public car j'ai besoin de bénévoles. À ce qui paraît, on est des nazes. À ce qui paraît, faudrait qu'on se casse. Venez, on sort de nos cases, venez, on se sert de Marianne pour sortir de nos bulles.
Diams avec Enfant du désert sur RTS Première.
La belle échappée.
Le court-métrage.
L'histoire se passe à la vallée de Jou, dans une forêt qui ne connaît pas de frontières, le Rizou. Une forêt qui abrite un trésor rare et précieux, des bois de résonance ou épicéas d'harmonie. Dotés de qualités sonores exceptionnelles, ces conifères attirent les luthiers du monde entier. Car là-haut, dans le Jura, au-dessus de 1200 mètres, c'est l'altitude et le sol idéal pour que les épicéas grandissent lentement. Leurs veines en seront d'autant plus serrées, gage de résonance. C'est ce qu'a pu constater Théo Magnien, un natif de la vallée de Jou, qui a le don pour repérer ces arbres d'exception, comme tant d'autres avant lui. Mais il se pourrait bien qu'il soit le dernier, car un mâle gangrène le Rizou, le bostriche ou scolite, un insecte qui se délecte autant des conifères que du changement climatique et des nouvelles pratiques forestières. Pour que le bois continue de résonner dans le Rizou, c'est le court-métrage de Muriel Mera. Il est réalisé par Jérôme Nussbaum.
Combien t'as de tables d'harmonie avec la bille du Rizou, là, Quentin ?
En meilleure qualité, j'ai pu tirer 195 pièces pour les folk. Et puis en classique, environ 150.
Il n'y a vraiment que l'épicéa qui a cette particularité de pouvoir donner de belles résonances.
Il est léger et tonique, l'épicéa, donc il transmet énormément de vibrations.
Et donc, du coup, il y a des hirondelles dans votre, dans votre atelier. Ils vont faire leur nid, là ?
Ouais. Ouais, tous les printemps, là, c'est... Bon, là, il y a de la place.
Quentin, vous travaillez avec Théo Magnien, on est dans l'entrepôt, en fait, où les épicéas de résonance sont stockés et sont en train de sécher. Et là, on se retrouve devant des tablettes qui seront des tables d'harmonie pour guitare, non ? C'est
oui.
Ça ?
Folk, ouais.
Et la particularité, c'est qu'elles ont un bout du bois qui est un peu bleu.
Ça, c'est les bois bostrichés, ça. Donc souvent, l'arbre, il est attaqué tout sur un côté ou plutôt vers le bas. Mais nous, on prend la partie qui n'est pas blessée, justement. Qui a eu la substance des réactions suite à cette attaque. Mais en tout cas, pas les trous de ces petits carabées, là.
Mais c'est important de pouvoir fabriquer des tables d'harmonie qui porteront, justement, les stigmates du bostriche, parce que la différence de teinte, elle va rester. On verra que c'est un peu bleu.
En tout cas, nous, on a fait le pari d'essayer ça. Il y a un esthétique, parfois, assez chouette. Donc, c'est irrégulier. Donc on se retrouve des fois avec des vrais tests de Rorschach sur les tables de guitare.
Mais donc, même malade, un bois de résonance peut continuer à faire une belle résonance.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de différence. Parce que il n'y a pas de pourriture. La croissance est exactement la même que les autres. Donc ça reste des bois exceptionnels. Des gros diamètres, des arbres droits. C'est juste une teinte en fait. On se retrouve avec une teinte particulière au milieu. Je pense qu'il faut s'y faire. Parce que le risque, c'est que ça devienne la norme dans les années à venir. C'est juste une éducation à faire au niveau des luthiers, je pense. Après, voilà, ça va s'ancrer un peu dans les têtes.
Oui, que c'est un bois qu'on peut utiliser, qu'on n'est pas obligé de mettre au rebut.
Voilà, ouais, exactement.
Là.
Il est là.
Est-ce que vous pouvez me faire les présentations alors? Qui est là, Théomania?
C'est un épicéa de résonance de la forêt du Rizou. Un arbre qui a 300-350 ans d'âge. Il a poussé au milieu d'une forêt, dans une combe, entouré de foyards, de hêtres ou de petits sapins, et il a poussé vraiment tranquillement, paisible. Il y a des épicéas qui vont être en lisière de forêt, en lisière de pâturage, au bord d'une route. Le bois sera déjà pas de même qualité parce que il y a les coups de vent, donc le bois il est venté. C'est pas du tout la même chose.
Ah là, ce que vous dites, voilà. C'est qu'en fait, c'est les autres arbres qui le protègent.
Oui, exactement.
Et c'est vrai que vous dites qu'il est entouré, parce que partout où je me tourne, à quelques centimètres de lui, il y a des arbres.
Et puis ça a été élagué autour, ils ont fait les soins culturaux, donc là il a vraiment de la place pour encore grossir un petit peu. Mais ce bois qu'on voit là, il est à maturité. Mais malheureusement, il n'est encore pas coupé. Peut-être cet automne, sinon ça attendra l'année prochaine ou deux ans, pour autant qu'il survive au Bostriche. Et ça va très vite. Là, nous sommes mercredi. Peut-être que lundi, il y a les bostriches, les bêtes qui sont dedans.
Mais ça veut dire alors que vous venez l'observer hyper régulièrement pour voir comment il se porte?
Oui, je viens régulièrement. En plus, j'adore cet arbre. Pour moi, il est vraiment sacré, cet arbre. Au Rizou, ça fait longtemps que je l'ai repéré. Je venais déjà m'amuser ici, dans cette forêt, depuis tout petit. Mon grand-père était déjà dans les forêts du Rizou, mon papa aussi.
Vous travaillez le bois déjà?
Oui, mon grand-père débardait et coupait les bois avec des chevaux. Mon papa avait une scierie. C'est un arbre qui m'avait marqué depuis tout petit. Il était déjà plus gros que les autres, il était long. Cet arbre, il est incroyable, il est majestueux, il faut le respecter.
Mais ça fait combien de temps que vous vous êtes dit, waouh, lui... Ça fera du beau bois de résonance.
Ça fait depuis 7 ans que je fais les bois de résonance et c'est depuis là que je me suis dit que ça va être un bois de résonance.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes amené à vous y intéresser?
Alors, il y a Lorenzo Pellegrini, le cueilleur d'arbres, qui est décédé. Un monsieur qui venait d'origine italienne, un grand monsieur.
Qui a passé sa vie dans les forêts.
Exactement. C'est un monsieur tellement nature, un travailleur. Il avait pas mal coupé du bois sur nos forêts. J'ai beaucoup de forêts privées. Et quand il est décédé, j'ai beaucoup de gens qui se sont approchés de moi et qui m'ont dit que, vu que j'ai ce don pour les bois de résonance, d'aller les cueillir, les chercher et remplacer M. Lorenzo Pellegrini.
J'ai envie de vous faire écouter quelque chose.
Vous voyez ça?
Alors là, il y a un petit épicéa.
Ça, il peut voir 100 ans déjà.
Le tout petit, là?
Oui. C'est bon. Très bon pour les êtres humains. Il ne faut pas qu'ils croissent trop fort.
Plus un arbre va pousser lentement, plus il sera meilleur pour les instruments.
Et la résonance. Celui qui pousse fort, alors ça, c'est pas bon.
Il faut en passer des heures en forêt pour repérer le bon arbre.
Ouh là là, il faut la patience. Oh, bon. Voilà. On va garder là et puis on revient de ce côté après. Ça, il va pas. Vous voyez, il est plate.
Ouais. Il n'a pas un bel arrondi.
Oui. Pour voir mieux, il faut le prendre comme ça. Regardez.
En le prenant dans vos bras, vous arrivez mieux à voir s'ils sont droits, penchés, plats, ronds.
Oui. Là, il n'est pas tant normal. Vous voyez comment il vient là-bas?
Il est comment là-bas?
Il viche tout le tour.
Il visse, ça veut dire quoi?
Comme un tire-bouchon. Vous voyez qu'il n'est pas droit. Là.
Ce monsieur Pellegrini, je l'ai connu depuis que j'ai fini l'école, depuis 15-16 ans. Et quand il faisait des coupes ou bien qu'il faisait des soins culturaux dans nos forêts au Rizou, j'allais, je montais avec mon vélo, mon boguet, comme on dit. Et puis c'est là que j'ai appris un peu avec lui. Et aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, c'est quand même une partie grâce à lui.
Puis est-ce que vous faites comme lui? Parce que ce qui m'avait frappé, il y avait de la neige pour le coup quand on était allés ensemble en forêt. Et puis, il avait repéré un petit arbre. Et en fait, il avait enlevé la neige, il lui avait mis un petit tuteur. Vous faites aussi ça, vous?
Non, aujourd'hui on n'a plus le temps. Et puis, comme je vous répète, les forêts sont infectées de ce bostriche. Donc on a, malheureusement, on n'a plus le temps aujourd'hui d'aller mettre un petit tuteur au pied d'un épicéa. Il faut sauver les forêts et il faut faire ça vite et bien. Si vous levez la tête, vous voyez les deux bois secs là, quoi, en haut.
Oui, voilà. En haut, là, il y a on deux pêtes sèches, là, ouais.
Voilà, on voit bien. Ça, c'est des épicéas qui sont secs. L'année passée, on a déjà coupé dans cette parcelle, et ils étaient tout verts. Ils étaient frais, ils étaient verts, en bonne santé. Et là, premier printemps, eh ben, ils sont malades, ils ont eu le bostriche. Depuis l'année passée, il faut le dire, c'est vraiment catastrophique. Aujourd'hui, on coupe à 80%, on coupe que des bois secs bostrichés. Là, on arrive dans une zone, c'est le désert complet, il n'y a plus d'arbres, vous voyez, il n'y a plus que le foyer, tous les épicéas ont été coupés, on les voit, ils sont au bord de la route, là.
Et puis donc, là, les troncs qui sont justement déjà coupés.
C'est tous des bois qui sont malades, si je lève l'écorce, on voit.
On voit
que c'est tout infecté. Vous voyez la bête, là.
La bête, là. La petite bête noire, là, ouais.
Voilà, c'est ça. Ça s'envole. En fait, ça vient poser les œufs dans l'arbre de l'épicéa, dans le résineux. Et une fois qu'elles ont pondu, elles partent ailleurs.
Ça veut dire que ces petites bêtes-là, elles pourront quitter ces troncs coupés pour aller contaminer d'autres arbres.
Exactement. On voit, ça fait des petits trous. Vous voyez bien, là, le petit trou.
Ouais, on voit, là, effectivement. Ouais.
Après, ça descend dans le bois. Autour du bois, ça vient tout bleu.
Ah oui, là, on voit le cœur, il est beige, tendre, clair. Voilà. Et puis plus on va sur les bords, plus
ça fait comme une couronne bleue.
Et on peut rien faire pour les protéger quand ils sont encore sur pied?
Rien du tout. Le seul système, c'est couper les bois malades, les écorcer en forêt, et après les mettre au bord de la route. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on coupe beaucoup les bois à la machine automatique, puis après, on les met au bord de la route, comme on a vu ici.
Avec l'écorce.
Et Il faudrait travailler comme anciennement. Anciennement, les bûcherons, ils écorçaient avec une écorceuse à la main. Ils rassemblaient tout, ils brûlaient les branches, les écorces. Et puis, bah, les bêtes, elles passaient dans le feu.
Vous avez dit, les anciens, ils faisaient comme ça pour l'éradiquer. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a du bostriche dans les forêts?
Non, à l'époque, chaque printemps, il y avait un rond de bostriche, mais ça s'arrêtait là.
Et ça fait combien d'années alors que ça s'est multiplié, cette présence du bostriche?
Je ne peux pas vous dire à 6 mois près, mais je pense qu'on va attaquer bien la 3e année, je pense. Là. Moi, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez aussi bien que moi que tout d'un coup, il pleut, tout d'un coup, il fait 3 degrés à la vallée de Joux, en montagne. Tout d'un coup, un jour après, il fait 20 degrés. Donc les arbres, c'est comme les êtres humains, ils n'aiment pas ces différences. Les variations de climat, mais même le réchauffement climatique, que t'y pleut pas pendant 2 semaines, 3 semaines, ben, je me répète, c'est comme des êtres humains, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de se nourrir aussi, les arbres. Et ils ont plus de défense immunitaire. Vous avez vu, en l'espace d'une heure, le climat a changé. Avant, il faisait un peu frais. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui va pas. Là, ça fait des bouffées de chaleur. Et ça, c'est vraiment terrible pour les épicéas, ça. Ces coups de chalumeau comme ça, c'est là que les bostriches attaquent.
Et puis, il y avait du soleil, et maintenant, ce que vous dites, effectivement, il y a des gros nuages noirs.
Orageux. Et là, les bêtes, elles vont commencer à travailler, et c'est ça qui va pas, ces changements comme ça. Et puis, si on a des grands froids, comme des moins 10, des moins 15, moins 20, comme on avait à l'époque, ces petites bêtes, le bostriche aussi, ça les fait un peu, je vais dire un gros mot, ça les fait crever aussi, une grosse partie. Donc, quand on n'a pas des grands froids, ben, la vermine, tout ça, ben, ça continue à végéter. Moi, je suis né à la vallée de Joux. Quand on était petit, à partir du 15, 20 octobre, début novembre, il tombait un mètre et demi de neige, où on se situe maintenant, et on ne remontait pas dans la forêt du Rizou jusqu'au mois d'avril, des fois début mai. Qui en gros hiver, ben, la forêt est tranquille, ça fait beaucoup d'eau au printemps, et puis quand il y a la sève des épicéas qui monte, ben, ils ont besoin d'absorber de l'eau aussi. On n'a plus des gros hivers comme à l'époque. Et ça, c'est problématique pour les forêts. Mais ça fait bientôt 7-8 ans que je parle que dans 5 ans, il n'y aura quasi plus d'épicéas dans le Rizou. Et on y arrive à grands pas.
Du coup, parler bois de résonance,
Le bois de résonance, c'est une petite anecdote parce qu'il y en a un sur 10 000. Mais c'est vraiment l'urgence. On parle de forêt en majuscule. Il faut y aller vite.
Pour que le bois continue de résonner dans le Rizou, c'était le court-métrage de Muriel Mera. Il était réalisé par Jérôme Nussbaum.
Most of my sweet memories were buried in the sand. The fire and the pain will now be coming to an end. How did you get to save me from this desolate wasteland? In your eyes I see the dawn of brighter days again. With my tears you washed away the mud stuck on my hands. All the things you're trying to do make me a better man. Now I remember the joy and the taste of candy cane, the innocence of youth and the sound of major scales. Most of what I used to be had vanished in the ways. The memories of the boy I've been were drowning and you saved them. Now I remember the joy and the meaning of the fate, the color of the truth and the sound of sunny days. Most of my sweet memories were buried in the sand. The fire and the pain will now be coming to an end. How did you get to save me from this desolate wasteland? In your eyes I see the dawn of brighter days again.
Kid avec Westland sur RTS Première.
La belle échappée.
Le long métrage.
L'histoire se passe dans l'Ain, ce département français frontalier de Genève, connu pêle-mêle pour ses vins et ses fromages, ses abbatiales, son monastère royal, ses volailles, ses maquis de résistants héroïques pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore sa plastique vallée et sa centrale nucléaire. Sans oublier sa dombe et ses montagnes, car c'est dans l'Ain que se trouvent les plus hauts sommets du massif du Jura. Et sans oublier non plus, si vous êtes fan de vélo, les routes d'accès au Grand Colombier, popularisées par le Tour de France, est réputée pour être parmi les plus raides et les plus dures de l'Hexagone. Il n'en fallait pas plus pour que Daniel Bernard, un habitant du coin, adepte de la petite reine, se mette en tête de transformer sa région en terre de cyclisme. En naîtra un circuit de 40 cols permettant de sillonner l'Ain dans tous les sens. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur l'apparition d'un autre personnage, Julien Brunet, qui s'est dit qu'il tenterait bien, lui aussi, de réaliser ce circuit hors norme. Sauf que Julien est tétraplégique. Et même s'il a déjà réalisé des exploits dans d'autres sports, c'est la première fois qu'il s'attaque à un défi sur une aussi longue période, 9 jours. Pour quel résultat? C'est ce que l'on va découvrir en le retrouvant le jour de la 5e étape du côté de la commune de Chézry-Foran, au pied du redoutable col de Montière. Il est accompagné, ce jour-là, par une dizaine de volontaires qui se relaient pour pédaler et le transporter à vélo. Et ce matin, c'est Daniel qui va s'y coller. Enchaîner les cols sur un vélo biplace, c'est la grande histoire du jour. Elle est réalisée par Jean-Daniel Mottet.
On descend tout de suite. Hein.
Oui, oui, non, mais ah ouais. J'ai mes manchettes.
Moi, de toute façon, je vais me changer après, mais.
Mon coach, il m'a bien tout expliqué.
Ah, mais ton coach, il est nul.
Donc, mon coach, il m'a dit tour de cou, manchette, ouais. Gants.
Mais moi, je dors avec lui depuis 5 jours, ton coach, et j'ai pas le diplôme.
On monte là, un petit coup. Là.
Tout de suite, on monte un peu.
Un petit peu, là.
Alors, on descend pas, du coup.
Ouais, mais je croyais.
On descend, on monte.
Après, non, non. Après, non, on fait mentir. Après.
Allez, on sort des vélos.
Ça, c'est la bête.
C'est le biporteur, ouais. Avec la coque de Julien qui est sur mesure.
Qui est devant.
Et sur une petite roue de 20 pouces. Et l'arrière, qui est un vélo traditionnel, mais avec des développements plus adaptés, quoi.
Vous êtes ?
Moi, c'est Christophe. Et donc, moi, je fais partie de l'association Handicap ou pas, avec qui on partage ce projet pour Julien. Voilà.
Ça fait un peu penser à un tandem.
C'est exactement ça, c'est un tandem, sauf qu'il n'y en a qu'un qui pédale. Et pour autant, Julien, devant, il n'est pas inactif. Hein. Il a une grosse part de responsabilité, surtout dans les parties descendantes, dans tous les virages. Et voilà, il ne faut pas qu'il soit à l'opposé, parce que sinon, c'est comme sur une moto. Hein. Si le passager arrière fait l'inverse, on va au mur.
En fait, c'est un vrai travail d'équipe.
Mais c'est pour ça que le challenge est intéressant. On n'est pas venu pour promener Julien, on est venu pour faire une épreuve. Et c'est un gros effort aussi pour lui. Donc c'est en cela où c'est un vrai défi, quoi. Et puis la finalité, c'est vraiment le partage, la cohésion d'équipe à travers cet engin. Et je dirais qu'on essaye de se relayer, de faire changer le coureur, c'est-à-dire celui qui pédale, 3 à 4 fois par jour. C'est-à-dire qu'on a 3 à 4 relais. Et chaque relais dure en moyenne une trentaine de kilomètres. Parce que forcément, 140 kilos, pour un cycliste tout seul, ça commence à faire du poids, quoi.
Donc au final, ça fait combien d'étapes, combien de jours et combien de dénivelés ?
Alors au total, on est sur 800 kilomètres, sur 9 jours, pour 17-18 000 mètres de dénivelé. C'est ce qui occupe. Déjà bien.
On va te mettre dans ton siège, Juju ? C'est OK ?
On y va ?
Ils vont le mettre dans le
siège. Ah bah alors, on va pas le prendre.
1,
2,
3.
Laisse tomber, il y a plein de trucs qui vont pas.
Ouais, on va tout régler. T'es pas vraiment au milieu, là. T'es pas centré, on dirait.
En plus, il a même pas fait un col.
Déjà Cri-cri, tu vas m'aider pour le remonter un petit peu.
1, 2, 3.
Oh. C'est mieux, là.
On fait un peu tous ensemble, tu vois, toute l'équipe donne un coup de main pour s'occuper de Julien et moi je donne un coup de main quand où je peux, dans l'ordre des arrêts. Puis je suis une des auxiliaires de vie de Julien, donc je l'accompagne pendant tout ce périple-là. Ouais.
Parce qu'auxiliaire de vie, ça consiste en quoi ?
On est une équipe de plusieurs, on accompagne Jules jour et nuit parce qu'il a, il peut pas utiliser ses bras. Donc, tous les gestes de la vie quotidienne, il a besoin de quelqu'un qui applique à sa place. Donc, même s'il peut dire ce qu'il veut faire, il ne peut pas exécuter. Donc, on est là pour ça.
Ouais. Bon, ça va ce matin ?
Oui. Si tu veux, moi, je vis chez moi dans un appartement avec 6 auxiliaires de vie dont Julien en fait partie, qui se relayent 24 heures sur 24. En fait, moi, mon handicap, il est dû à une grosse prématurité. Je suis né à 6 mois. Grossesse gémellaire. Mon frère jumeau, il est décédé 1 mois après la naissance. En fait, le handicap, c'est des cellules neuromotrices qui ont grillé dans le cerveau à cause de la prématurité. Donc, je suis atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Voilà. Mais après, ça m'empêche pas de faire ma vie. On est là pour faire les 40 cols. Donc c'est magnifique comme aventure. Et moi du coup, ça va me faire grandir encore en endurance. Parce que j'ai pas l'habitude d'en finir 9 jours comme ça, mais le corps, ça va, il accepte.
Attention. Allez, on va y aller. On va à confort et on fait main tiers. Tu vois, regarde, tu regardes mon Jura.
Allez,
c'est parti.
Allez.
Il y a personne là sur la route parce que.
Il y a personne.
Allez, bon dada.
Allez, bon, Juju, c'est reparti pour un tour.
Doucement, mais sûrement. Hein.
Allez, à gauche. Allez. Allez, c'est parti.
Allez, à tout à l'heure.
Trajectoire, mon dada.
Trajectoire, mais je compte sur toi.
Je suis là. Allez.
Hop, ça tombe les vitesses.
Alors, regarde le paysage, t'as le droit aussi, Juju.
D'accord.
C'est beau là.
C'est très beau. Voilà, à gauche. Allez. À droite. Tout droit. Virage. On appuie. Bon là, tu vois là, c'est un peu plus dans ma température là, ça commence à chauffer là.
Ah mais moi, je préfère quand il fait plus frais, tu vois.
Là, moi ça commence à aller là. On monte tranquille. Dans la montée, si tu veux, ça se coupe pas mal aussi, donc c'est d'être toujours dans la même position qui crée des crampes. Mais c'est pour ça, il faut que je fasse des mouvements de la tête, des mouvements des bras, des mouvements du dos.
Parce que ça, la tête, les bras et le dos, c'est ce que vous arrivez encore à bouger.
Ouais, ouais. Dans les descentes aussi, j'arrive bien à m'incliner en avant. Et après, les encouragements aussi pour pas qu'il y ait de défaillance pour Daniel. C'est important.
Ah oui.
On a réussi à transformer avec moi de discipline individuelle en discipline collective. Ah, c'est bien.
7 km. Non, sérieux? Ah ouais. Putain. Ah, j'ai pas quitté 8-10%.
Ah ouais.
Allez Daniel.
Allez Daniel. En direct dans le col de Mentières, on attaque. Il nous reste 7 km encore à monter. Alors Daniel, dis-nous tes sensations.
Bah écoute, c'est pas terrible. Ah. Non, c'est un peu dur.
C'est un peu dur.
Enfin, un peu, ouais. Ouais. Comme toujours dans ces cols là, à 8-10%,
ouais.
Ça pique.
Ouais, ouais.
Et bon, tout le monde est là.
Donc, tout le monde est là. Fidèle au poste. Et Juju. Comment tu te sens?
Ça va. Tant que vous êtes là, nous, on est là.
Chris, on mettra la laisse pendant un kilomètre ou deux. On va la mettre là. Allez, on s'arrête. Comme ça, ça me récupère un petit kilomètre là.
Donc là, on met un système d'attelage un peu. Pour soulager dans la montée.
C'est-à-dire qu'on accroche un autre vélo devant.
C'est ça.
C'est un fil Kevlar qui est donc hyper résistant, enroulé sur un système avec une lame de ressort pour le renrouler. Et quand on le déroule, ça permet de tracter et surtout il n'y a pas de souplesse, donc il n'y a pas d'à-coup.
Allez, on y va.
Attends, hein, qu'est-ce? J'ai pas clipsé. Hein. Allez, c'est bon.
Allez, les gars.
Putain.
Qu'est-ce qu'il y a?
Le pneu, j'ai roulé sur un caillou, j'espère que c'est bon.
Allez, on est presque au sommet.
Allez, super. Allez, super. Allez, super. Allez.
Tu l'as fait.
Allez. Allez, bravo. Allez, bravo encore. Bravo, Dada.
Allez, Dada. Allez.
Voiture.
Allez, c'est bien.
Voiture, attention. On va le faire, le sprint. Allez, Juju.
Allez, allez, allez.
Allez,
allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez,
allez,
allez,
allez,
allez, allez, allez,
allez,
allez,
allez,
allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez,
allez, allez, allez, allez, allez.
Bien mec.
Ah. Et ben voilà, rien de fait.
Bravo Dan.
C'est bien Dan. Prends une barre ou un truc dans mon sac à dos devant moi. Il y a des barres à l'intérieur, donc profitez pour manger.
Dans ça, là.
Sur le kawaii peut-être.
Le kawaii. T'as ça?
Ouais bah je vais prendre ça.
Ça.
Ça va passer.
Bah ouais.
Vous êtes le papa?
Le beau-père.
Et alors?
Alors, ben, on vient voir les exploits de toute l'équipe et de Juju. Et puis, on lui amène sa mascotte, le chien qui est là, Ouna.
Ah ouais.
Et sa maman est là, voilà.
On va rester derrière,
Qu'est-ce que t'en penses, Isa?
toi donc.
De tout ça.
Ah bah c'est super. Hein. J'en reviens pas là, la patate qu'ils ont tous. Ils sont frais comme des gardons. Ouais. Ouais, non mais c'est impressionnant. Hein. C'est vrai que là, il a de l'endurance. Ouais.
Il fait beaucoup d'exercices de gainage pour les abdos. Donc, il fait de la boxe avec d'autres personnes. Il fait du yoga porté. Il y a des gens qui lui marchent sur le ventre. Tout, chez lui, toute la force, elle sort du ventre.
OK.
Ouais. Et c'est avec ça qu'il se retourne dans l'eau. Et c'est avec ses abdos qu'il va faire les mouvements.
Je suis ami depuis 25 ans avec Eric Baron. Il m'a emmené au sport de haut niveau, lui. On a fait plusieurs records du monde de vitesse. En ski ensemble, je fais également du triathlon, dont la réalisation d'un Ironman en 2021. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 181 de vélo et 92,95 à pied. Donc moi, en natation, à votre avis, je fais comment? En fait, moi, je suis sur un bateau, je fais allongé, et mon coéquipier me tracte à la nage. Donc je me suis entraîné pendant 2 ans à faire ça et du coup si le bateau il tombe, moi je dois pouvoir me retourner tout seul sur le dos.
Et une fois il est tombé en fauteuil ski avec un moniteur. Donc Julien va plus vite et ça a tout débarroulé. Et alors le moniteur était là, oh là là, oh putain, oh là là. Puis après il arrive en bas, il dit à Julien ça va? Oui, je suis toujours handicapée. Ouais.
Il refuse d'abandonner, même si le corps, il fatigue. C'est vraiment la force du mental qui va l'emporter. Parce que là, ça fatigue quand même.
La position, hein. Quand même, les secousses.
Oui, ça secoue pas mal dans sa coquille. Et puis, il est quand même en tension pendant tout le trajet. Et puis, de base, c'est sa pathologie qui fait qu'il a des douleurs en permanence
permanence.
Il a des spasmes. Donc, il y a le moindre truc qui peut lui provoquer des spasmes.
Un ballon qui pète, là, il peut pas. Il faut le sortir. Un feu d'artifice, c'est pareil, il peut pas.
Mais on le voit pas quand on le connaît pas. On se dit, il est de bonne, mais c'est parce qu'il a cette force mentale. Il peut pas manger sans quelqu'un, il peut pas faire sa toilette. Si ça le gratte, il peut pas y arriver.
Même coucher, quand il est embêté, ça le gratte, ou ça, il faut y aller. Ouais. Ou le drap qui est parti quand il fait froid.
Il arrive à se découvrir, mais il arrive pas à se recouvrir après.
Non, puis il a toujours de l'humour sur son handicap. Oui. En vacances, une fois, il était dans la piscine et il se mettait sur le dos. Puis il nous dit, prenez-moi en photo pour que les gens voient qu'un légume, ça flotte.
Oui, c'est une mise à distance.
Voilà,
Oui, c'est clair.
Il ne se voit pas tellement comme un handicapé.
Non, lui, il n'est pas handicapé. Moi, je suis handicapé parce que je ne fais pas de sport. Mais lui, il n'y est pas.
Ouais.
Il n'y a pas de montagne pour lui.
Faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort. Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir. Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant. Je vieillirai avec.
Ariane Moffat avec Mon Corps sur RTS Première. Cette semaine, dans La Belle Échappée, on est dans l'Ain, ce département français frontalier de Genève. On accompagne Julien Brunet et ses amis dans leur improbable épopée de 9 jours à vélo sur les montées et les descentes de la quarantaine de cols répertoriés dans la région. Improbable car Juju, comme on l'appelle dans son entourage, est tétraplégique de naissance. Mais avec un vélo biplace conduit par une ou un cycliste volontaire et un siège fait sur mesure pour Julien placé à l'avant, tout devient possible. On l'a entendu dans la première partie du reportage. Et ce n'est pas Eric Baron qui dira le contraire. On retourne sur place.
Eric, vous ne voulez pas que tu viennes, vous ne voulez pas que tu viennes.
J'ai envie de faire ça.
Écoute, moi je vis au jour le jour, donc...
C'est déjà pas mal.
N'écoute pas.
Non, je t'écoute pas.
Eric Baron, vous débarquez souvent comme ça, à l'improviste ?
Oui, personne ne savait. Tout le monde savait sauf Juju, en fait. Juju, il a 34 ans. Depuis l'âge de 4 ans, il me téléphone tous les 15 jours pour qu'on fasse des choses ensemble. Donc, j'ai découvert quand il avait 4 ans, par l'association la bande à Juju, parce que ses parents cherchaient des budgets pour agrandir la maison, entre autres chez eux, parce que le fauteuil passait pas. Et depuis, on s'est jamais quitté, quoi. Parce que aujourd'hui, une personne handicapée, on a toujours un peu peur. On n'a pas de peur. On a du retrait, on n'ose pas l'aborder, peur de la déranger et tout. Bon, après, faut prendre les gens comme ils sont. Et au début, Julien, quand j'ai rencontré, c'était un coup de cœur, un petit bout de chou, j'ai mis sur mon guidon avec les yeux clairs, j'ai aussi fondu, quoi. Et puis derrière, on parlait tout le temps de la vie, puis en 2013, il m'appelle, Eric, je veux faire des records du monde. Tu bouges plus la tête, tu veux faire des records du monde. Je veux faire des records du monde en dual-ski piloté, donc c'est un fauteuil piloté. Puis comme j'étais ancien pisteur, je connais bien le marteau neigeux et les barquettes, entre autres, donc j'ai fait une formation vite fait de ça en 2-3 jours. Puis après, c'est le dual-ski piloté, et j'ai fait des records du monde avec Juju, où je l'invitais sur mes lieux de records du monde de vitesse, parce que c'est des lieux particuliers, il n'y en a qu'un au monde pour aller très vite, c'est Vars. Et j'ai amené Julien, en fait c'est des pistes que je louais avec tous les services, et puis j'en ai profité pour faire vivre Julien sur une aventure qu'il avait envie.
Oui, parce que vous, en fait, vous avez le record du monde de descente en vélo sur neige, qui n'a jamais été battu à ce jour, ouais. 228 km/h.
127, 72, oui. En fait, moi j'ai une carrière atypique, j'ai été cascadeur professionnel, j'ai fait plusieurs films avec Luc Besson, Taxi 1, Taxi 3, les cascades en scooter dans Taxi 1, donc j'ai été loin dans la démarche. Puis je vois dans la vie, c'est pas le physique qui mène le corps, c'est bien le mental, lui, il réalise. Il se lève le matin, il a la banane parce qu'il a des projets. Et ça, c'est important, qu'il soit paralysé ou pas paralysé. Il se lève le matin avec la banane parce qu'il a des projets. Bien sûr, il a des jours off où il n'est pas bien, mais il y en a peu. Après, faut prendre les gens comme ils sont. Et pas d'handicap ou handicap, c'est pareil. C'est aborder la personne de la même manière, tout simplement.
Allez, c'est parti.
Fais gaffe à la descente.
Parce que celle-là...
C'est bon, t'as
s'habillé
là, ouais?
Ouais. C'est bon, t'inquiète.
Attends, elle me dit de ralentir, il doit y avoir quelque chose sur la route.
Y a rien.
Il y a un gros virage,
je crois. Ouais. Allez. Ah. Et on relance.
Allez, ça relance.
Ça va vite. C'est beau, hein? C'est beau. Ça va, Dada?
Ça va, mon Juju? C'est sympa la descente.
Ouais. Les petites courbes là, c'est bien sympa.
Allez, on va.
Droite. Et on restabilise et on relance. Il y a le virage, petite courbe à gauche. Et là, on va pouvoir relancer. Allez, allez, allez. Allez, mon Dada. Dans la vallée.
Oh,
oh.
Qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
Allez, mon Juju, ça c'est fait. Ça se fait à l'ombre, Dom. Il n'y a pas bien d'ombre, là. Ça a été, mon Juju?
Ça a été nickel.
Eh ben, tu vois, 28
bords. Je te remettre la poche.
Ça va?
Ouais, elle a bougé, non, un peu.
100 mètres de dénivelé.
Non, pas tant, hein.
Qui était prévu.
Je vérifie bien que la sonde à la poche à urine soit bien attachée, parce que dans les descentes et les secousses, elle arrive à tomber, et si elle tombe, elle se coince dans la roue avant, et ça peut faire mal à Juju. Voilà, donc maintenant, je suis la préposée à la poche à urine.
Comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
En fait, je préparais l'Ironman de Vichy, et donc j'ai vu sur les réseaux que Julien l'avait fait en binôme, et je l'ai contacté pour qu'il me fasse ma prépa mentale.
Ouais. Et du coup, ben voilà, maintenant on est amis et maintenant il me fait faire des choses que j'aurais jamais pu faire s'il avait pas été là. C'est Julien qui me fait prendre confiance en moi et qui me dit mais si, mais tu peux y arriver. T'as vu tout ce qu'on a déjà fait ensemble, mais Carole, mais voilà. Donc ouais, ça, c'est un moteur.
C'est-à-dire ?
Eh ben déjà l'Ironman, je pensais jamais y arriver et voilà. Et puis on a fait des triathlons après ensemble et puis là, ben le défi des 40 cols de l'Ain quoi.
Le handicap, c'est dur, mais au bout d'un moment, ça ouvre des portes à... pendant certaines années d'expérience de vie, on va dire.
Mais à un moment, il était allé dans un centre. Oh là là, c'était la catastrophe.
Avant qu'il soit chez lui, avant qu'il ait un chez lui.
Oui, voilà. Ah, c'était une horreur. Ah non, non, c'était un mouroir.
Il levait des fois à midi. Voilà, enfin, c'était, c'était l'horreur. Vu Julien, ce qu'il aime faire, qu'il aime bouger... Donc voilà, il attendait qu'une chose le week-end quand il revenait à la maison et puis.
Ouais. Et il a été scolarisé en école, enfin normale entre guillemets, de la maternelle au CM2. Puis après, on a dû voir autrement parce qu'avec les auxiliaires de vie, c'était la galère à chaque fois.
Donc en gros, de 3 à 9 ans, 10 ans.
Voilà, ouais, 10 ans. Et puis après, ça a été l'internat. Dans un centre à Chambéry, c'était pareil, la catastrophe. On me disait, mais madame, le principal, c'est qu'il sache lire l'étiquette d'une bouteille de lait. Enfin, j'entendais ça alors qu'on avait galéré pour l'école, lui rentrer ses devoirs, enfin, avoir fait un tas de trucs. Puis, quand il a pu vite se sauver, c'était parfait.
Et puis maintenant, il est entouré de... Vous êtes combien? 6, hein? Julia, vous êtes 6 auxiliaires maintenant? Ouais, voilà. 24-24.
Ouais.
Ah, c'est...
Et ça tourne.
Oui, c'est...
On est bien.
Ouais. Julien est autonome maintenant.
Ouais.
Voilà. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, il fait, il a.
Oui, il est très tenace. Hein. Quand il a envie de quelque chose, il lâche pas. Hein. Avant, il était toujours dans la demande. Ouais. Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Tu m'emmènes là?
Ouais, et puis en plus, il avait ses exigences déjà. Même s'il nous bassinait pendant 2 jours, il obtenait ce qu'il voulait.
Si
maintenant, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, je suis heureux, parce que ce n'est plus moi qui vais chercher les gens, c'est les gens qui viennent à moi pour faire des exploits avec moi. Ouais. Ça a beaucoup changé, ça. Voilà, voilà, Juju.
Bon, on y va là ou quoi?
Allez, allez, 29, on y va.
Eh, il manque quelque chose, les gars. On oublie le casque, le plus important.
Non, il est là, regarde.
Après, je m'en fous, moi, je suis déjà handicapé, j'ai déjà pris.
Et voilà, le matelas est pris pour cette nuit.
On est arrivé où là, Daniel?
On est dans la salle des fêtes de Charix, à proximité du lac Genin.
Et le lac Genin, c'est où?
C'est au-dessus d'Oyonnax. C'est la municipalité voilà, qui nous prête la salle des fêtes gracieusement. On va tous dormir ensemble ce soir, ça va changer un peu des autres jours.
Parce que Julien, il va dormir là aussi.
Sur son matelas, là. Ouais, ouais.
Tu vois, il a une mousse là qui est adaptée à son corps. Elle a été conçue pour lui. Ça lui permet, il a la tête ici. Et puis là, ça lui décroise les jambes. Parce que ça lui arrive des fois qu'avec les spasmes, qu'il a les jambes croisées, ce qui est douloureux pour lui. Et avec cette coque là, il est bien installé.
Ouais, qui est entre les jambes. Ouais.
Ouais. C'est ça. Et puis, ouais, voilà, c'est adapté à son corps, donc ça lui donne un certain confort pour vraiment pouvoir se reposer, pour relâcher dans la nuit. Ouais, ouais, c'est assez génial.
C'est le seul soir qu'on fait dans une salle des fêtes. Sinon, hier, on était dans un gîte, donc on avait des lits. Voilà, on a fait soit chez l'habitant, soit bah, salle des fêtes, soit gîte. Donc, et camping, on a passé 2 nuits au camping des 12 cols à Hauteville. Voilà.
C'est vous qui êtes à l'initiative de cet itinéraire des 40 cols de l'Ain. C'est quoi l'idée en fait? C'est un défi sportif? C'est l'idée de faire mieux connaître votre département?
Oui, c'est des paysages et des panoramas qui sont quand même fabuleux. Et un jour, en me promenant dans la montagne de l'Ain, justement, en passant le col des Vosges, j'ai pris un peu le temps de contempler tout ça et je me suis dit que j'habitais quand même dans un lieu qui est quand même extraordinaire en termes de paysage, mais aussi de patrimoine. Et je me suis dit, bah tiens, ce col est beau, je vais essayer de répertorier tous les cols du département. Et l'idée, c'était de passer vraiment... au sommet des 40 cols. Donc j'avais, en 2021, je m'étais lancé le défi de faire ça un petit peu en one-shot. Mais voilà, c'était un petit peu ça. Et puis, l'autre idée, c'est que c'est vrai qu'on voit souvent que le sport Ça passe souvent par la compétition. Et là, la preuve en est, avec ce qu'on est en train de faire là depuis 6 jours, le dépassement de soi, on peut aussi le trouver dans la coopération. Et puis Julien, il nous montre tous les jours que c'est possible, quoi, parce que pour nous, c'est compliqué parce qu'on pédale, mais pour lui, c'est encore plus compliqué parce qu'il passe quand même 10 heures sur son siège tous les jours. Et c'est un vrai sportif, quoi.
On a pris combien de seringues pour finir l'étape, Julien? Je crois qu'il y en a une dizaine dans le sac, non, Christophe?
No comment.
Voilà. Ah, ok. Non, non, chez nous, on prend pas de seringues, on prend pas des billes. Par contre, qu'est-ce qu'on prend? Des tablettes de chocolat en 5 jours.
Donc là, c'est la pause étape, là. C'est la pause, là.
Et demain, on repart.
En fait, c'est tout le parcours bleu, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
Là. Oh là là, d'accord.
Et en fait, Julien, le vélo est là-bas. Julien est sur un fauteuil posé devant un vélo.
Ah ouais.
Avec un mec qui pédale. Ou une dame.
Et c'est un relais, hein?
Oui, il se relie dans les côtes.
C'est génial, les paysages et tout.
Ah oui, pour les paysages, oui, c'est magnifique. C'est vraiment un beau parcours. En tout cas, là, c'est un département de vélo.
C'est super, ouais, de pouvoir sortir du handicap aussi. On a l'impression qu'est vrai, effectivement, il veut changer les mentalités en faisant ça, parce que les gens handicapés sont souvent contraints d'être à domicile et c'est compliqué de sortir et de faire des choses. Mais vous prouvez que c'est pas le cas.
Non, pour moi, grâce à mes parents en premier, grâce à ma famille.
Ouais.
Bah oui. J'ai jamais été considéré comme une personne en situation de handicap.
Ouais.
Et je dirais même aujourd'hui, le handicap, c'est une force. Je ferais pas ce que je fais si j'étais pas en situation de handicap, je pense pas du moins.
Bon, c'est super.
Mais par contre, je suis content parce que ce qu'on va prouver dans ce projet, Daniel, il pourra mettre que 40 cols de lin sont difficiles mais sont accessibles avec une personne en situation de handicap et en biporteur. Quand tu vois l'humanité, ce qui se passe dans le monde, elle n'est pas très belle. Ils sont plus trop solidaires, les gens. Et nous, on prouve le contraire pendant une semaine très intense. Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
On se garde par là?
Si vous voulez, avance. C'est ma sœur qui vient d'arriver.
Ah oui, c'est ça la voiture qui vient de passer.
Oui, oui.
Elle voulait pas venir à vélo?
Ah, Clarisse, en vélo, c'est comme maman. C'est comme ça.
Allez, tu veux aller boire une bière?
Allez, on va boire une bière.
Tu l'as trouvé où?
T'aurais pu offrir ta bière, hein?
De quoi, mais merde, toi?
Pas dire rien, alors. Oh! Hé!
Enchaîner l'école sur un vélo biplace, c'était la grande histoire du jour. Elle était réalisée par Jean-Daniel Mottet.
L'heure avec RTS Première.
Vous écoutez RTS Première, il est 17h.